With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans Activiste. Cette semaine, deuxième partie de l'entretien avec Canel. Si vous n'avez pas encore écouté la première, je vous conseille de commencer par là. Vous y découvrirez son parcours et quelques bases qui structurent sa pensée. Si c'est déjà fait, elle voulait apporter une petite correction au sujet de l'arnaque du commerce équitable en ce qui concerne entre autres les bananes. Il s'agit de celles qui sont produites en République dominicaine et non pas à la Dominique, contrairement à ce qui avait été dit. Ce sont deux territoires bien différents. Maintenant que c'est fait, on embarque pour la suite de notre discussion avec Canel, où l'on parlera chlordécone, déboulonnage de statut et indépendance de la Martinique, entre autres. C'est parti! On a donc défriché un peu la manière dont tu conçois le monde. Je voudrais qu'on s'attaque un peu plus en détail à certains sujets qui ont donc été abordés comme ci, comme ça. Tout à l'heure, je te demandais quel est le lien avec l'environnement, donc par rapport à la colonisation, etc. Et tu as mentionné le chlordécone. Donc, sur ce sujet, à mon avis, ça peut valoir le coup de s'attarder. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le scandale du chlordécone ?
Alors...
Ouais, je sais, la question est très vaste.
Bah, pour le coup, il n'y a pas que le chlordécone, mais pour moi, c'est un peu l'archétype d'une manière abominable de posséder, d'habiter la Terre et d'en priver les autres, et aussi de priver les autres de leur existence. Pour moi, ça s'inscrit dans la lignée du système esclavagiste. En gros, il faut savoir que... on a aboli l'esclavage, mais c'est un peu comme si je vous disais, mais Hitler est un juif dans une pièce, et du jour au lendemain, on décide qu'Hitler n'est plus Hitler et que le juif n'est plus un juif. Je suis pas certaine que la situation change réellement. C'est un peu la même chose pour le système esclavagiste, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a décidé que les maîtres seraient des patrons et que les esclaves seraient des ouvriers agricoles. En réalité, le système esclavagiste a perduré jusqu'à la fin... du XXe siècle, il faut savoir que, par exemple, jusque dans les années 70-80, les ouvriers agricoles n'étaient pas pleinement rémunérés pour leur travail. C'est-à-dire qu'on les payait à la tâche, on leur disait, voilà, il faut que tu chawailles 110 régimes de bananes sur la journée, mais en fait, c'est une tâche qui est trop importante et qui permet pas de l'accomplir en une journée de travail. Donc, du coup, le lendemain, tu travailles gratuitement pour la terminer. À la fin de la semaine, quand tu vas chercher ta paye dans la petite boutique du béquet, dans laquelle tu fais crédit puisque tu achètes des trucs à des prix usuraires, du coup, en fait, tu as vécu à crédit toute la semaine et de fait, il ne te reste rien. Au-delà de ça, tu dois épandre des produits phytosanitaires à main nue, sans gants, sans masque, sans bottes. Et donc, du coup, les ouvriers et les ouvrières agricoles étaient nombreux à s'évanouir dans les champs, à finir à l'hôpital, sous perfusion, en réanimation. Et en 74, en février 74 notamment, les ouvriers agricoles ont dénoncé cette utilisation abusive et criminelle pour le coup des produits phytosanitaires. Donc ça a été le premier cri d'alerte lancé avant tous les rapports Kemarek, Snegarov qui ont été produits sur la contamination des eaux et des sols au chlordécone. Et personne ne les a écoutés. On a continué à épandre des produits phytosanitaires quand même, y compris le chlordécone. Et j'ai oublié de parler de la jeunesse du chlordécone, en fait. Parce que du coup, je suis partie dans une explication hyper, hyper large.
Pour l'instant, c'était très clair. L'utilisation intensive des produits phytosanitaires, première alerte en 1974. Le chlordécone, c'est quoi ? C'est un pesticide ?
En gros, c'est un pesticide organochloré, donc extrêmement persistant et très très polluant, qui s'infiltre absolument partout, dans les sols, dans l'eau, dans les poissons, et qui du coup se retrouve dans les légumes racines et qui se retrouve absolument partout, qui a contaminé nos sols pour 700 ans, du coup, qui se retrouve dans les cordons ombilicaux des nourrissons, dans le lait maternel, dans l'eau du robinet, et qui a été utilisé pour lutter contre le charançon du bananier.
Mais ouais, c'est un insecte.
C'est un insecte ravageur, en gros, qui s'attaque au bulbe du bananier, à son réseau racinaire, et donc au moindre coup de vent, le bananier tombe, puisque le bananier est une herbe géante avec un réseau racinaire assez, assez faible, finalement. Et en réalité, on dit que c'était pour lutter contre le charançon du bananier, mais je crois que c'est plus pour pallier aux problèmes inhérents à la monoculture, finalement, puisque la monoculture induit la destruction des biotopes et des écosystèmes, donc contribue à la prolifération des nuisibles. Et il faut savoir que, par exemple, dans les années 70, au niveau de l'IRFA, je crois, ou de l'IFAC de Côte d'Ivoire, des chercheurs ont mis en lumière le fait que la culture des bananiers avec les caféiers, ça suffisait à résoudre le problème du charançon, par exemple. Donc finalement, il y avait des solutions alternatives à l'utilisation du chlordécone, mais c'est juste que dans le cadre du productivisme plantationnaire, c'est plus rentable. Et donc l'État français a permis au béquet d'utiliser du chlordécone de manière massive, en sachant pertinemment quels effets désastreux ça avait sur la santé humaine et sur l'environnement, puisque c'est un pesticide qui initialement était produit aux États-Unis et qui a fait scandale, qui est à l'origine du plus gros scandale environnemental du XXe siècle aux États-Unis, puisqu'il a conduit à la fermeture de l'usine d'Hopewell en Virginie, avec une interdiction de vente et de commercialisation du chlordécone. Donc on parle quand même des États-Unis qui ne sont pas des références en matière de protection de l'environnement et des travailleurs. Ce qui a été aussi mis en lumière, le fait que tous les travailleurs de l'usine étaient intoxiqués. On parlait du syndrome de Kaepernick, donc, qui se manifestait par des tremblements, des troubles neurologiques divers et des problèmes de fertilité. Il y a des études qui ont été réalisées sur le rat, qui mettent en lumière le fait que c'est hyper cancérigène et qu'en fait c'est même létal. Il a été classé cancérogène probable par l'OMS en 1979. Et en dépit de ça, en fait, de par un lobbyisme intensif, les béquets, notamment la famille Ayotte et Yves Ayotte, ont pu être les distributeurs exclusifs du chlordécone aux Antilles françaises. Mais le chlordécone, c'est vraiment pour moi l'étendard du colonialisme, parce qu'il a été testé en Côte d'Ivoire en 1964. On fait du continent africain finalement un champ d'expérimentation, avec tout ce que ça suppose. En 68, la commission des toxiques décide de le classer au tableau de catégorie A, donc les produits toxiques et qu'on ne peut pas utiliser. En dépit de ça, finalement, le CIRAD de la Martinique commence à le tester en 68, alors même que la commission des toxiques n'était pas favorable à son utilisation et qu'il était déjà testé en Côte d'Ivoire. Et puis en 72, du coup, c'est les premières autorisations provisoires de mise sur le marché et puis une succession de dérogations, en fait. On déroge au...
72, mise sur le marché. 74, tu disais, première alerte par les ouvriers eux-mêmes en Martinique. Le scandale aux États-Unis, c'était en quelle année environ ? Enfin, quelle période ?
75.
Ok. À quel moment on décide d'arrêter, du coup ? Et pourquoi ça n'arrête pas en Martinique ?
Alors, on décide de l'arrêter en 90 sur le territoire hexagonal, donc la France, mais en sachant qu'il n'a pas été utilisé en France, pour le coup. Et puis, par une succession de dérogations, justement, on l'utilise jusqu'en 93, officiellement, en tout cas, aux Andes, puisque encore aujourd'hui, on trouve des stocks de chlordécone qui sont enfouis et qui sont comme neufs. Donc, bon, voilà. Et puis, de par différentes conversations que j'ai pu avoir au cours de cette année, enfin, je sais qu'il a été utilisé post-interdiction. Et finalement, ces autorisations successives, elles sont le fruit d'un lobbying intensif, alors tant de la part du lobby de la banane, qui a ses entrées à Matignon, à l'Élysée, à Bruxelles et partout en soi, que des députés bananes qui étaient les CI des béquets, quoi. Et donc, du coup, c'est par une collusion d'intérêts publics privés et puis des histoires de copinage entre la classe politique et les maîtres esclavagistes de la Martinique.
Je vais encore poser une question naïve insupportable, mais pourquoi c'est pas déjà un scandale d'État ?
Il faut poser la question au pouvoir français. Enfin, je veux dire, si ce scandale était survenu sur les territoires français, ça fait bien longtemps que la situation serait réglée. On est quand même les pionniers en matière de cancer de la prostate. Pour ce qui est de l'endométriose, on a les cas les plus sévères ici. Il y a une liste, mais longue comme trois fois mon bras, de pathologies qui sont imputables directement au chlordécone. Mais en fait, si l'État français ne fait rien, c'est parce que c'est aussi pour des considérations budgétaires. Ça impliquerait d'indemniser tout le monde. Ça impliquerait de dépolluer les sols. Ça impliquerait de développer la souveraineté alimentaire aussi. Et la résilience alimentaire par là même. Donc cultiver des produits qui seraient exempts de chlordécone. C'est la colonialité du pouvoir qui s'exprime au travers de la gestion de ce scandale, en fait. C'est qu'on nous renie le droit d'être des victimes.
Je connais des écologistes qui ont démonté des McDo pour beaucoup moins que ça. Où sont les écologistes sur ce sujet du chlordécone ?
Ah, ça. au sein de leur milieu bébert, bleu-blanc, enfin bleu-bourgeois et raciste, parce que le racisme systémique n'épargne pas les luttes écologistes. Le problème, c'est que nous, on est des extrémités lointaines, comme le disait Aimé Césaire. Donc je pense pas que les écolos français aient quelque chose à faire des Martiniquais et des Guadeloupéens, puisque faut savoir que sur le territoire français, on n'est même pas considéré comme des Français à part entière. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, c'est la relation à l'autre et la conception de l'autre qui a beaucoup à voir dans cette question, puisqu'il y a quand même des manifestations qui ont été organisées à Paris, par exemple, par des militants antillais, et il n'y a aucun blanc qui se joue aux manifestations. C'est un problème qui concerne les autres et qui ne concerne pas les Français. L'écologie française, elle est hyper euro-centrée et ethno-centrée, quoi. Enfin, l'écologie occidentale de manière plus générale. On commence à se préoccuper de la lutte environnementale parce que on connaît des épisodes caniculaires assez ouf et que on a les premiers réfugiés climatiques en France, mais c'est pas des sujets qui préoccupent les écolos, quoi.
Je hoche la tête pour les gens qui écoutent, voilà. Car je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire.
J'ai une question sur ce que tu viens de dire, parce que tu as décrit donc, tout ce qu'il faudrait changer ou arrêter, ou les raisons pour lesquelles ce n'est pas un scandale. Est-ce que l'une des raisons, c'est aussi peut-être qu'en fait, la culture intensive de la banane avec d'autres produits phytosanitaires ou les mêmes, comme tu viens de le dire, se poursuit en fait. J'avais lu, c'est chez toi d'ailleurs, que typiquement il y a des fongicides qui ont été interdits en 2011 en métropole contre seulement 2014 en Martinique. Je me dis, s'il y avait des choses qui étaient aussi récentes, il y en a probablement d'autres.
Dans la canne à sucre, la Sulox est interdit au sein du territoire de l'Union européenne depuis 2018, mais il est encore autorisé ici, par exemple. Donc en fait, c'est un système dérogatoire hein, qui je vais pas dire qui régit nos vies, mais qui pourrit nos vies, qui les phagocyte. Et effectivement, ouais, en 2011, l'épandage aérien des fongicides a été interdit sur le territoire de l'Union européenne, mais jusqu'en 2014, ils avaient lieu en Martinique. Mais il faut savoir que les bananeraies, en fait, elles sont accolées à des habitations. Ou par exemple, comme le quartier d'ouvriers agricoles de Beauchette, ils vivent à l'intérieur même de la plantation. Donc, c'est-à-dire que quand on épand les fongicides par voie aérienne, on les épand aussi sur les travailleurs qui sont à l'intérieur même des bananeries et puis sur les habitations qui sont à côté.
Donc là, le lien avec la colonisation, il est bien établi, avec ce que tu viens de nous décrire. Il y a ce que tu viens de dire sur le fait qu'on ne se sente pas forcément citoyen français en tant que Martiniquais ou Martiniquaise. C'est quoi ta position vis-à-vis de ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples, ta position par rapport au fait que la Martinique soit un département français?
C'est un leurre sémantique, c'est une colonie, donc moi je suis souverainiste et autonomiste, puisque finalement la seule chose qui nous lie à la France, c'est l'exploitation de nos terres, de nos corps et des richesses du territoire. C'est une colonie de vacances, donc moi je vois pas d'intérêt particulier à conserver des liens avec une France assassine. Et y a beaucoup de Martiniquais qui ne se considèrent pas comme étant français, mais comme Martiniquais. Donc, pour moi, il y a un droit qu'ont disposé des peuples qui consiste à disposer d'eux-mêmes. Donc, il faudrait peut-être l'appliquer, sinon l'imposer, puisque je ne suis pas certaine que la France nous concède ce droit. Et on le voit bien depuis un petit moment, puisqu'il y a quand même une lutte anticolonialiste qui est menée en Martinique et en Guadeloupe et de manière plus large dans les territoires ultramarins depuis des années, et particulièrement en Martinique depuis octobre 2019. Et il y a une résistance très violente du pouvoir colonial en place, qui consiste à faire des perquisitions abusives, des placements en garde à vue, des violences policières en tout genre. Donc c'est compliqué de s'extraire d'un système colonial, du coup.
Il n'y a pas si longtemps que ça, je t'aurais répondu oui, mais quand même, la France a amené dans ces territoires d'outre-mer l'accès à la santé, à des infrastructures, à l'éducation. Je pense que mon avis a évolué, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, puisque on enregistre évidemment là en juin 2020 et on sort en France hexagonale, hein, on sort métropolitaine, pardon, on sort du coronavirus. Je touche du bois. Et vous, comment ça se passe en Martinique? Comment est l'accès à la santé pendant cette crise sanitaire?
Mauvais. Très, très mauvais. Nos infrastructures hospitalières, elles sont dans un état lamentable. Et encore, je parle de la Martinique, mais en Guadeloupe, le CHU a brûlé, il n'a toujours pas été reconstruit. À Mayotte, ils ont 16 lits de réanimation. Donc voilà, si tu m'avais dit ça, je pense que je t'aurais mis une gifle rhétorique, parce que de quel système de santé on parle, de quel système éducatif on parle, je pense que ce sont plus des choses qui nous desservent plutôt qu'elles nous apportent quelque chose. Donc pour toutes les personnes qui seraient tentées de vanter les bienfaits de la colonisation, on parle d'un système de santé qui prône, promeut l'utilisation massive de médicaments tout aussi toxiques les uns que les autres et qui parallèlement contribue à la déliquescence de nos médecines traditionnelles qui sont très efficaces. Donc, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais pour ce qui est du système éducatif, on parle d'un système éducatif qui finalement contribue à notre asservissement en maquillant notre histoire. Et donc, en nous vidant de notre individualité parce qu'on nous prive de notre culture, de nos histoires plurielles. Et donc, je ne suis pas certaine que la colonisation puisse avoir des bienfaits, quoi. Et puis, c'est la colonisation qui justifie l'occidentalisation de nos sociétés, et donc l'apparition de tous les maux occidentaux, de toutes les maladies chroniques imputables à la surconsommation occidentale, etc. Donc, bon, voilà, quoi.
Merci pour cette explication. Pour être bien clair, hein, je, je, j'ai posé la question parce que je voulais t'entendre répondre. Et bien sûr que à aucun moment, je n'insinue qu'il y aurait eu des bienfaits à la colonisation. Plutôt, allez, j'étais prête à m'arrêter à peut-être une dimension d'échange. Mais je reconnais sans mal aujourd'hui, parce que je me suis documentée sur le sujet, que si intention d'échange il y avait, force est de constater que ça n'est pas la réalité.
La colonisation, c'est pas un échange, hein, c'est un monologue extrêmement violent.
Exact.
Et donc qui se perpétue aujourd'hui. On vient de t'entendre sur certains sujets. Je voudrais savoir si tu as d'autres exemples de rupture d'égalité qui se mesurent concrètement entre la métropole et la Martinique, par exemple.
Ouais, l'accès à l'eau, par exemple. Je veux dire, en France, après, tout le monde a accès à l'eau potable. C'est pas le cas ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni à Mayotte, d'ailleurs. En Martinique, il faut savoir que, comme je le disais, la culture bananière consomme beaucoup, 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 beaucoup d'eau, puisqu'elle s'étend sur l'ensemble du territoire. Enfin, c'est vraiment une plantation géante qui est subdivisée entre canne à sucre et banane, la Martinique. Et donc, ça implique une consommation d'eau vraiment massive. Et parallèlement à ça, on a plus de 100 000 Martiniquais qui sont privés d'accès à l'eau potable aujourd'hui. Alors, soit temporairement, soit de manière permanente depuis 3 mois. Et ça se reproduit à chaque période de carême, donc à chaque période de sécheresse. Et ce qu'on a eu pour habitude de nous dire, c'est que voilà, c'était imputable à la sécheresse, et donc au carême, et donc à la diminution des ressources en eau. Puis on a fini par savoir que c'était du fait d'une caisse, d'une canalisation qui se trouve au Lorrain, donc dans le nord de l'île, et qui vise à approvisionner justement le centre et le sud de l'île. Et il se trouve qu'en fait, en 2009, il y a eu un glissement de terrain sur l'exploitation agricole de Bernard Bally, qui est un béquet, donc un descendant de maîtres esclavagistes. Et il y avait une canalisation, donc, qui a cassé. Et de fait, Bernard Bally n'a pas trouvé meilleure idée que de poursuivre l'ex-conseil général, parce qu'il estimait que son terrain lui était imputable. Donc du coup, il a saisi le tribunal administratif, qui l'a débouté, et il a fini par demander une indemnisation à hauteur de 2 millions d'euros pour le préjudice subi. Le conseil général a entrepris des négociations avec lui pour procéder aux réparations, parce que c'est quand même embêtant quand une partie de l'île est privée d'eau. Et finalement, ce monsieur, tout aussi béquet qu'égoïste qu'il soit, a refusé. Donc ça a été très compliqué. Finalement, il y a eu une première entente, et là je mets de grosses guillemets. Donc il a permis que les travaux puissent être réalisés, mais finalement il a fini par rétro-pédaler, alors qu'on avait déjà accompli pour 946 000 euros de travaux. La perte, elle se chiffre à 392 000 euros pour la collectivité territoriale de la Martinique. Et au bout du compte, finalement, au bout d'un moment, on lui concède un chèque de 92 000 euros pour qu'il arrête de faire du zèle et qu'il laisse le conseil général assurer l'accès à l'eau à l'ensemble de la population. Et donc ça fait 11 ans que ce dossier dure, ça fait 11 ans qu'on n'en est toujours pas sorti. L'un des élus a décidé de contourner ce problème qui est Bernard Bally, en contournant littéralement son terrain, et donc là les travaux se chiffraient à 5 millions d'euros, donc c'est pas entendable non plus. Là, dernièrement, donc la semaine passée, les élus ont voté une enveloppe budgétaire de 225 000 euros au profit de Bernard Bally. Alors, un, pour qu'il abandonne les poursuites, qui en plus sont illégitimes puisque normalement et abusives, puisqu'il aurait dû se retourner vers son assureur, et pour le rachat de son terrain, qui normalement coûte 15 000 euros, selon le barème légal. Donc, tout en sachant qu'on lui avait déjà donné 92 000 euros en 2013. Ça, pour moi, c'est au même titre que le chlordécone, et qui fait partie de ce dossier en plus, l'archétype du système colonial. Parce que le glissement de terrain, il est dû à des pratiques culturelles inadaptées, à savoir la banane, donc qui contribue à l'érosion des sols. Et donc, on a ce glissement de terrain, qui est imputable à la monoculture de la banane coloniale, qui en plus de ça, grassement contribue à la pollution de nos corps et de nos terres, et de notre eau, du robinet, qui elle aussi est contaminée au chlordécone, eau à laquelle on ne peut pas avoir accès, parce que ce descendant de maître esclavagiste qui est exploitant de bananes refuse qu'on procède aux travaux sur son terrain. Et donc voilà, on en est là, des élus qui votent un chèque de 225 000 euros sans que ce soit inscrit à l'ordre du jour en plus, pour qu'on puisse procéder aux travaux, quoi. Alors même qu'il aurait lieu de l'exproprier, et la demande a déjà été formulée auprès du préfet en 2014, il l'a rejetée, puisque le préfet est un représentant de l'État colonial. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème, parce qu'au-delà du fait qu'on soit en pleine pandémie de Covid et où le lavage des mains régulier et l'accès à l'eau est de rigueur, on a quand même une population qui est très vieillissante et très isolée aussi, du fait du départ forcé de notre jeunesse, qui ne peut pas faire ses études ici. Donc voilà, on a des publics, enfin un public très fragile qui n'a pas accès à l'eau en pleine période de pandémie, et ce problème-là n'est toujours pas réglé, quoi. On parle quand même d'un droit fondamental qui a été reconnu par l'Assemblée générale de l'ONU en 2010, qui est l'accès à des installations décentes et un accès à l'eau potable, quoi.
Attends, comment tu fais pour être aussi calme quand tu racontes tout ça? Parce que là, moi, quand je t'écoute, j'ai envie de casser des trucs et ça ne me concerne pas directement. Je t'écoute énumérer des chiffres qui peuvent paraître démesurés, grandes proportions. J'ai entendu 5 millions d'euros, oh là là, quelle somme. Mais ça, c'était avant, hein, parce que maintenant, depuis, on parle en centaines de milliards, on parle en quoi qu'il en coûte. Apparemment, maintenant, l'État sort le chèque et signe des montants quoi qu'il en coûte pour tout, et pas pour l'eau potable d'une partie de citoyens français. Pourquoi t'es calme, en fait, là? Enfin, ça m'interpelle.
Parce que je suis fatiguée d'être en colère et que je suis constamment en colère. Mais alors, en plus, on parle d'une eau potable, mais qui ne l'est pas en réalité, parce qu'elle est contaminée au chlordécone en plus de ça. Donc moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'aujourd'hui encore, les Martiniquais doivent payer de leur poche pour réaliser le test de chlordéconomie et pouvoir savoir s'ils sont empoisonnés au chlordécone ou pas. Et parallèlement à ça, on finance un béquet pour qu'on puisse avoir accès à l'eau potable, et encore, même pas de manière immédiate, quoi. Donc ouais, je trouve ça fou. Et en parallèle de ça, on a exproprié des nègres, comme on dit chez nous, à Sainte-Thérèse pour le passage du TCSP. Donc c'est un hybride entre tramway et bus. En tout cas, c'est le premier transport en commun à peu près efficace qu'on ait ici. Et on a exproprié, du coup, des habitants de Sainte-Thérèse qui, aujourd'hui encore, ne sont toujours pas indemnisés du fait de cette expropriation. L'année passée, Monsieur Nomis, qui est un habitant historique du François, puisque sa maison a été construite en 1930, a été exproprié par l'ONF. Donc on a rasé sa maison. Une personne âgée, il y avait plusieurs escadrons de gendarmerie, il a peu eu le temps de récupérer ses effets personnels, et en plus de ça, on lui a demandé de s'acquitter d'une somme de 22 000 euros. L'ONF a reconnu son erreur, il n'a toujours pas été indemnisé, et donc il y a un contraste criant, quoi, entre toutes ces situations, et qui finalement tiennent à l'organisation raciale de notre société, quoi, tout bonnement.
Je vais quand même poser la question que j'espère celles et ceux qui nous écoutent se posent actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quel député on écrit? À quel ministre on écrit? Est-ce qu'il y a une pétition qui tourne? Vraiment, si on peut, d'une manière ou d'une autre, utiliser ce podcast pour inciter les gens qui nous écoutent à agir au soutien de celles et ceux qui sont victimes de tout ce que tu décris, partageons-le maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors oui, il me semble qu'il y a une pétition pour Monsieur Nomis, mais enfin... Le problème, c'est que là, on se raccroche aux représentants de l'État colonial, donc aux gens qui servent les intérêts des béquets et leurs intérêts privés. Donc je suis pas certaine que les pétitions aient vraiment une importance, sauf à médiatiser du coup un sujet, mais je passe plutôt par les modes d'action directs. Donc hormis aller occuper le terrain de Bernard Bali, je vois pas trop quoi faire. Hormis faire pression sur l'ONF directement de par une mobilisation de masse, je vois pas trop quoi faire. Donc libre à chacun de créer des pétitions, hein, mais aujourd'hui, moi, je mets plus mon énergie dans ces modes d'action là. Mais effectivement, si on veut être un bon allié, on peut prendre l'initiative de créer une pétition, par exemple.
Quand on entend tout ce que tu expliques là, ça devient assez clair, les raisons pour être souverainiste quand on est martiniquais, martiniquaise. Je pense qu'aujourd'hui, pourtant, c'est pas du tout acquis dans les esprits.
J'ai l'impression qu'on appartient un peu aux Français. Ça les met dans une situation confortable quand on parle d'indépendance. Ça les dérange alors que ça les concerne pas, finalement, puisqu'on vit à 8000 km d'eux. Donc,
parce que je pense que beaucoup de personnes se disent « Mais attends, mais de toute façon, ces personnes-là, elles ont choisi de rester françaises. On leur a donné la possibilité à un moment. » Qu'est-ce que tu réponds à ces arguments-là?
Alors, par exemple, pour prendre l'exemple du référendum concernant l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, j'invite les gens à lire un article de Mediapart qui est très éloquent à ce sujet. En fait, le résultat du vote tient aussi à l'organisation raciale de la société, puisque c'est le groupe dominant, du coup, qui a majoritairement voté en faveur du non. L'exemple d'Haïti, qui a un chiffon rouge que tout le monde brandit dès qu'on parle d'indépendance, la situation assez catastrophique au plan économique et humain que vit Haïti aujourd'hui, c'est aussi et surtout dû à l'indemnité faramineuse qu'a dû payer Haïti à la France pour la perte de sa perle des Antilles. Finalement, quand un territoire colonisé décide de prendre son indépendance, l'empire colonial se venge et décide d'en faire un exemple pour faire peur aux gens qui auraient des velléités autonomistes ou souverainistes. De toute façon, on peut pas. En tout cas, c'est pas une existence digne qu'on mène au sein de ce système, parce que finalement, les seuls à en tirer profit, ce sont les Blancs, qu'ils soient béquets ou métro. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui sont infirmières, aides-soignantes, qui travaillent dans d'autres branches et qui peinent vraiment à trouver un contrat stable, qui enchaînent les contrats précaires. Si vous deux, demain, vous êtes infirmière et que vous décidez de vous installer ici, vous pouvez être persuadé qu'au bout d'une semaine, vous avez un emploi, et très certainement un CDI, en fait. Donc, ouais, c'est cool, hein, quand on est blanc, les Antilles. Ça permet de rester sur un territoire français, ou bien en vacances, ou bien pour y vivre, et de bénéficier de tous ces avantages, quoi. Et de tous les privilèges qui découlent de son appartenance raciale.
Aujourd'hui, est-ce que tu saurais décrire quelle forme prend ton activisme ? On a commencé à en parler tout à l'heure et puis j'ai dévié la conversation. Tu disais que toi, tu te diriges plus vers des formes d'action directe. Concrètement, aujourd'hui, ton activisme, il prend quelle forme ?
Elles sont... Ouais, c'est très, très varié, je pense. Hein. Je fais pas mal de trucs, j'écris beaucoup aussi, parce que j'écris un essai sur la France néocoloniale. Parallèlement, j'écris des chroniques sur Mediapart, parce que pour moi, l'activisme, ça passe aussi par l'information. Le travail de conscientisation, il est pour moi primordial. On peut pas, enfin, on peut rien faire si on n'a pas cette base, en tout cas, à mon sens. Et puis ensuite, oui, par des modes d'action directs, donc le travail associatif, par exemple. Donc, je suis chargée de communication du collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides. Donc, du coup, là, on est en train de travailler justement sur la question des réparations, de la prise en charge sanitaire et aussi psychologique des ouvriers qui, finalement, ont été traversés par beaucoup d'enjeux de pouvoir et ont été victimes de beaucoup de violences. Et finalement, la négation de notre statut de victime, aujourd'hui, c'est encore une autre forme de violence et surtout du leurre, puisque ces gens-là ont été en première ligne pour le coup. Et donc ça passe aussi par un travail de négociation avec les instances de pouvoir, donc le préfet, l'ARS, et puis le pouvoir central, du coup, mais qui est fermé à toute négociation au vu de toutes les prises de position de Macron sur le sujet. Ça passe aussi par des blocages de supermarchés qui appartiennent au béquet, pour le coup, hein. avec les militants RVN, donc Rouge Vennois, et puis d'autres choses, quoi.
À propos des articles que tu écris sur Mediapart, j'avais lu effectivement un de tes billets sur le déboulonnage des statues. Et puis, il n'y a pas. C'était quand c'était dimanche soir, l'allocution présidentielle, il n'a pas dit un truc. La France ne déboulonnera aucune statue.
Non, mais cette allocution-là, c'est une insulte, très clairement, une insulte, parce qu'on est quand même face à un type qui prend la peine de monopoliser 5 minutes du temps de son allocution pour parler des statues et de son projet colonial, qui n'en profite même pas pour adresser une pensée aux victimes des violences policières et à leurs familles, et qui derrière ça soutient grassement les forces de l'ordre. Donc ouais, c'était super insultant, et puis voilà, le fait que qui nous accuse d'être des séparatistes et des communautaristes, finalement je crois que sont plutôt les Français et les Françaises, alors pas tous, je mets pas tout le monde dans le même paquet, mais c'est plutôt l'État français et ses citoyens blancs qui, pour le coup, sont communautaristes et séparatistes. Il y a beaucoup d'entre-soi blancs dans toutes les strates de la société, avec très peu de minorités divisibles, surtout dans les instances de pouvoir. Ça, c'est du communautarisme. Ça, c'est du séparatisme. Et puis finalement, ensuite, il parle du désir de ne pas nier l'histoire et de ne pas nier ce que nous sommes, mais refuser de déboulonner des statues d'esclavagistes, de tortionnaires, de gens qui ont violé, pillé, tué, torturé des gens. Ça, c'est une négation de l'histoire. C'est une négation de l'histoire des autres, du coup, qu'ont subi les autres, parce que c'est une histoire que choisissent les dominants et que subissent les dominés. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne d'édifier une statue de des frères Kouachi ou d'Hitler à Paris, quoi.
On glorifie. De Pétain, enfin. C'était l'argument qui était amené. On fait pas des places Maréchal Pétain, des rues Pétain, des statues de Pétain.
Oui, et puis en plus, après l'occupation, je veux dire, l'espace public a été réaménagé. On a modifié, on a changé des noms de rues, on a retiré des statues. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose, j'allais dire, au sortir de la colonisation, mais en même temps. J'allais dire, la question, elle est vite répondue. C'est juste parce que la colonisation, elle n'est pas achevée. Enfin, quand dans la même allocution, il nous parle de la France comme deuxième puissance océanique, c'est le fruit de quoi, ça ? C'est juste le fruit de la colonisation. Quand il parle de renforcer les liens France-Afrique, il parle d'un projet colonial qu'il entend mener, enfin, en tout cas poursuivre. Donc ouais, c'est super insultant, et je pense qu'en fait, on n'a pas vraiment à demander à nos oppresseurs de cesser de nous oppresser, donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités, aller déboulonner ses statuts sans demander à personne, quoi.
Alors vous déboulonnez qui en Martinique ? C'est quel statut, singulier ou pluriel, qui sont sur vos places et qui n'ont rien à y faire ?
Oh là, il y en a beaucoup, hein. Mais celle à laquelle je songe tout particulièrement, c'est celle de d'Enambuc, qui est le fondateur de la colonie Martinique, qui du coup est à l'origine du génocide des Caraïbes, qui du coup est à l'origine du viol des femmes caraïbes, qui du coup est à l'origine de l'expropriation des Caraïbes, qui est à l'origine de l'édification d'une société basée sur la propriété privée et sur l'exploitation des autres, et sur un système esclavagiste. Donc c'est une statue qui a été édifiée par Théodore Baud, du coup, qui est un blanc, mais qui est présenté comme un poète et auteur martiniquais, mais qui, dans ses écrits, en tout cas, contribue à dénigrer la majeure partie des Martiniquais et des Martiniquaises, puisqu'il a écrit par exemple un recueil de textes lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage. C'est des textes qui sont profondément racistes, qui romancent l'esclavage et le système colonialiste. Donc c'est cette personne qui prend l'initiative en 1931 d'édifier une statue à la gloire de Dénambuc, avec une plaque qui indique fondateur de la puissance française aux Antilles. Ouais, ce qui en dit assez long, finalement. Et en 1935, cette statue est installée sur la savane à Fort-de-France, donc, qui qui finalement est le chef-lieu de la Martinique. Et donc c'est hyper violent, je trouve, que de passer devant un symbole hautement colonial, quoi. C'est la quintessence du symbole colonial pour moi. Et finalement, quand on passe à côté de lui, on se rend compte que notre genèse, c'est la colonisation et le système esclavagiste et le génocide des Amérindiens. Donc c'est pas un livre d'histoire, une statue, c'est un symbole de pouvoir, c'est un instrument de domination qui sert à promouvoir une certaine vision du monde et de l'histoire, et donc ça n'a rien à faire là. Et quand on discute avec Didier Laguerre, qui est le maire de Fort-de-France, son discours est ponctué de si, de mais, de peut-être, il faut réfléchir, il faut voir, il faut interroger la population, non, en fait. Et en fait, c'est aussi ça, les méfaits de la colonisation, c'est l'aliénation. Parce que Didier Laguerre est un noir, et quand on est afro-descendant, pour moi, on ne peut pas accepter la présence de ces symboles hautement violents dans l'espace public. Leur place, elle est dans un musée, à la limite, pour justement, enfin dans une vraie démarche pédagogique, parce que finalement, on ne sait pas qui il est, ce type. Parce que la plaque a été retirée, il y a de nombreuses manifestations qui ont été faites, il a été tagué à de multiples reprises, et en plus, il est repeint à chaque fois par la mairie de Fort-de-France. Donc c'est... ouais, c'est assez hallucinant finalement. Puis mettre une plaque commémorative, une plaque explicative, je vois pas ce qu'on peut mettre dessus, hormis colon, esclavagiste, génocidaire, violeur, pilleur, donc c'est encore plus violent, quoi. Donc faut juste les retirer, ces statues, en fait.
Mais encore une fois, je suis désolée de poser des questions naïves, mais je t'écoute expliquer toute cette histoire. C'est quoi les arguments de la partie adverse, entre guillemets? Enfin, c'est justifié comment? Enfin, tu vois, quand on avait tout un débat sur Polanski séparer l'homme de l'artiste, il y avait des arguments. Voilà, il y a des gens qui ont des arguments au soutien de l'homme et de l'artiste. Mais là, je ne les vois pas, les arguments. En fait, je ne comprends pas, du coup, encore une fois, qu'est-ce qui bloque le travail de mémoire?
L'aliénation et la peur du qu'en dira-t-on aussi, et de qu'en dira le pouvoir central, qui du coup a affiché sa position dans sa dernière allocution. Parce que Didier Laguerre est un maire qui se présente comme étant un autonomiste. Bon, alors à mon avis, son idéologie politique, elle est à des kilomètres de la pratique, si tant est qu'il soit réellement autonomiste au vu de ses positions. Mais ce qui nous est opposé comme argument, c'est le fait que... C'est pas forcément Didier Laguerre, hein, c'est de manière plus générale, mais c'est que finalement on serait des révisionnistes, des négationnistes, puisque certaines personnes n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse pas glorifier des gens qui ont fait la grandeur de la France, genre Colbert ou Galgani ou Tenambuc par exemple, mais de quelle grandeur on parle en fait finalement? Et au-delà de ça, quand on nous dit qu'on veut effacer l'histoire, encore une fois, la statue, c'est pas un livre d'histoire. Moi, quand je passe à côté de Tenambuc, j'en connais pas plus sur mon histoire qu'avant d'y être passé, quoi. Donc non, il n'y a pas de véritables arguments, en fait. Je pense que c'est juste que ça dérange profondément qu'on bouscule l'ordre établi et voilà, qu'on vienne choquer et brusquer les différentes visions et divisions du monde de chacun et de chacune, quoi.
Dramatique, mais clair. Merci.
Quand je vois le tollé que ça avait créé, le déboulonnage des statues de Victor Schœlcher, puisque l'article de Canel dont tu parlais, Clémence, en fait, il faisait référence donc au déboulonnage des statues de Victor Schœlcher, moi, c'est à cette occasion-là, en fait, que j'en ai appris davantage sur la fin de l'esclavage. Et effectivement, ce qu'on nous apprend, c'est que Victor Schœlcher est le grand instigateur et que c'est grâce à lui que l'esclavage a été aboli. Mais quand on lit les historiens qui ont travaillé sur la question, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça, quand même.
Et encore, ça dépend de quel historien on parle. Mais alors déjà, c'est pas lui qui a signé le décret, premièrement. Ensuite de ça, ça a été l'instigateur de l'indemnisation des maîtres esclavagistes. Donc finalement, de la perpétuation du fossé économique. Je sais pas si on peut parler de fossé, j'ai pas de terme qui soit plus fort, mais entre... les maîtres et les esclaves, finalement. Donc c'est lui qui est à l'origine de l'organisation actuelle de notre société, de la création du prolétariat servile, qui de toute façon était de l'esclavage jusqu'à ce que mes vieux camarades de lutte libère les ouvriers agricoles du joug de l'esclavage dans les années 70. Donc non, il y a toute une histoire à réécrire, parce que l'histoire officielle telle qu'on nous la présente, elle est fallacieuse. C'est un tissu de mensonges, pour le coup. Et puis en plus, il était profondément raciste, hein, Victor Schœlcher, et initialement, c'était un esclavagiste qui ensuite a revu sa position sur le sujet et est devenu abolitionniste, mais pour des considérations mercantiles et économiques plus qu'altruistes et humanistes, finalement. Et puis il y avait aussi la volonté de ne pas perdre la Martinique comme la France a pu perdre sa colonie la plus prolifique qui était Haïti. Donc voilà.
Ouais, je pense que les auditeurs et auditrices retiendront de cette interview que Esther et moi on avait du mal à rebondir, parce que depuis le début de cet échange, je suis hallucinée. Et en plus, je ne découvre pas, c'est-à-dire que je suivais ton travail, ça fait quand même un moment que je me renseigne sur toutes ces questions, donc c'est pas comme si je venais d'apprendre tout ce que tu viens d'expliquer, mais de l'entendre expliquer, ça me choque à un niveau, enfin, c'est vraiment dur en fait, et je sais que en fait, cette difficulté, c'est que celle du témoin, c'est-à-dire que je ne suis pas directement concernée par tout ce que tu racontes. Et même juste dans cette position de témoin, je trouve que c'est à la limite du supportable. Donc c'est juste, enfin, je suis hallucinée vraiment depuis une heure et demie qu'on parle de ce niveau de violence, mais hallucinée encore plus du niveau d'indifférence rencontré par toutes les victimes de cette violence.
Mmh. Ouais, c'est fou, hein. Mais c'est justement pour ça qu'on a décidé de réaliser le documentaire Décolonisons l'écologie avec Annabelle et Jérémy, parce que finalement, les écrits, c'est bien, mais ça permet pas de véhiculer des émotions chez la personne à qui sont données ces informations. Et je pense que c'est important de mettre tout ça en image et vraiment de montrer la réalité qu'on vit, en fait. Et qu'on subit, très clairement. Alors après, je vais pas dire qu'on subit, parce que ça nous enfermerait dans une position victimaire et que depuis Nani Nanan, il y a des luttes qui sont menées, y compris des luttes armées. Plus maintenant, mais en tout cas dans les années 80 c'était le cas, mais voilà, c'est un peu le but du documentaire, et de faire le lien justement entre le passé esclavagiste et du coup de rectifier l'histoire officielle, et je vais même dire de l'annihiler, hein, tout simplement au travers d'histoires plurielles que raconteront les Martiniquais et les Martiniquaises, et puis mettre la lumière sur les injustices coloniales qu'on subit encore, et voilà, quoi. Et puis peut-être aussi appeler les milieux écolo-BBR à s'intéresser à ces luttes-là et à les soutenir aussi.
Vous en êtes où actuellement sur ce projet ?
Il va être réalisé prochainement, donc du 3 au 17 juillet. Le calendrier des interviews est bouclé. La trame l'est aussi. Et voilà, puis le tournage se poursuivra aussi en France au mois d'août, et normalement on va le sortir à la rentrée.
Vous allez le sortir où ?
Je pense qu'on va faire des projections un peu sauvages aussi, et je sais pas, on n'a pas encore discuté de cette question là
vous nous tiendrez au courant, parce que vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous contribuer. Super. À promouvoir la diffusion de ce travail et contribuer, j'espère, à sensibiliser un maximum de gens à cette réalité, j'allais dire délirante, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas créer un espèce une espèce de mise à distance, comme si c'était une folie, ce qui se passe. Non, c'est une réalité, en fait. Et c'est pour ça que c'est dramatique. C'est parce que c'est
une
réalité.
Oui, et puis c'est pas si distant que ça. C'est tout proche de vous. Et là, je parle des auditeurs. Hein. C'est dans votre cellier, dans votre frigo, à savoir des bananes. C'est juste à côté. C'est tout proche.
Tout à l'heure, tu parlais de la fatigue. T'expliquais que si t'étais aussi calme alors que tu prends le temps de nous expliquer donc toute cette histoire, tout ce vécu, toute cette violence, est-ce que parfois t'as envie de baisser les bras quand la fatigue est trop forte? Comment tu gères?
Je m'effondre, je gère pas du tout, j'ai des gros troubles anxieux, et ouais, c'est pas toujours facile, mais heureusement que j'ai des épaules solides sur lesquelles je peux poser ma tête et pleurer.
Merci beaucoup Canel pour cette interview.
D'habitude, je termine en demandant à l'invité où est-ce qu'on peut te suivre, etc. On va le faire dans un instant. Je voudrais juste mettre un intermédiaire à toutes celles et ceux qui voudraient t'écrire pour manifester leur désaccord et peut-être te dire que tu te trompes ou t'exagères, ou etc., etc. Eh bien, ne le faites pas. Écrivez à tutoconquérirlemonde@gmail.com. C'est pas une provocation, hein, c'est-à-dire que si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici et que votre intuition, c'est d'écrire à Canel pour essayer de la convaincre qu'elle a tort, en fait, écrivez nous à nous pour nous expliquer pourquoi vous pensez que elle exagère, que c'est bon, l'esclavage, la colonie, tout ça c'est terminé. Écrivez-nous, vraiment, ça m'intéresse de vous lire, ça m'intéresse d'entendre vos arguments, ça m'intéresse d'avoir vos questions, d'autant plus si elles sont légitimes et que vous n'êtes pas un troll, ça m'intéresse moins. Et pour toutes celles et ceux qui voudraient suivre Canel, écouter ce qu'elle a à dire, lire ses productions écrites et globalement suivre tes actualités, à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on répond? Où est-ce qu'on les envoie?
Sur mon compte Instagram ou sur mon blog Mediapart qui s'intitule de la même manière, à savoir Canoubis.
On mettra évidemment tous les liens dans les notes du podcast.
Voilà, ainsi que les liens des choses dont tu as parlé.
Merci en tout cas, c'était cool.
Bah, merci à toi, vraiment. C'est terminé pour ces deux épisodes avec Canel. Vous l'aurez compris, on a divisé son interview en deux parce qu'elle était à la fois très longue et dense. On ne voulait pas la couper parce que cette parole mérite d'être entendue en intégralité. Elle est un tout construit. N'hésitez pas à partager ces deux épisodes, c'est comme ça que vous donnerez de la voix à Canel. Et si vous aussi vous êtes activiste, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine!
Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching.
Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof.
Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.